Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements informés, entre autres. Rencontre avec le ministre malaisien de la Défense, Shafri apporte un message spécial du président Prabowo. Réalisation de 100 jours de travail, objectif l'aval du ministère des entreprises publiques. Président Prabowo souhaite que IKN devienne une capitale politique en 2028. Vice-ministre indonésien des Affaires étrangères exhorte le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre des mesures concrètes pour la paix entre Palestiniens. Raymond Indra et Patra Harapan décrochent des billets pour le top 32. Réalisation culturelle entre la Turquie et l'Indonésie se renforce grâce à la promotion de l'histoire, de la culture, des arts et de la musique. Le vice-ministre du Commerce estime que la politique tarifaire de Trump est une opportunité de substitution de marché. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Le ministre de la Défense de la République d'Indonésie, Shafri Shamsuddin, a effectué une visite de courtoisie pour rencontrer le ministre malaisien de la Défense, Son Excellence Dato Seri Mohamed Khalid Nordin, au bureau du ministère malaisien de la Défense. Le chef du bureau d'information de la Défense du secrétariat général du ministère indonésien de la Défense, le général de brigade de l'armée nationale indonésienne, TNI, Frega Wenas Inkiriwang, a déclaré mardi 21 janvier que Shafri avait également transmis le message du président Prabowo, bientôt soulignant l'importance d'une collaboration étroite pour développer les relations bilatérales, relations entre l'Indonésie et la Malaisie en tant que pays voisins. Cette visite confirma la volonté commune des deux pays de renforcer la coopération en matière de défense à travers diverses initiatives stratégiques. Dans son discours, le ministre indonésien de la Défense a exprimé l'espoir que ce moment de rencontre puisse être un tremplin pour renforcer davantage les bases des relations bilatérales à l'avenir. Frega a ajouté que, dans le cadre du renforcement de l'écosystème de coopération régionale, l'Indonésie et la Malaisie encouragent également le développement de la collaboration de l'industrie de la défense de l'ASEAN en tant que node stratégique pour réaliser une collaboration structurée et durable. Le ministre des Entreprises publiques BUMN, Eric Thohir, a déclaré que son parti menait diverses initiatives pour accélérer les programmes prioritaires nationaux. Les initiatives comprennent l'aval, le développement d'un des infrastructures, les services publics, la stabilisation des prix alimentaires et le développement des ressources humaines et de l'énergie. Eric Thohir, dans sa déclaration de Jakarta mardi 21 janvier, a déclaré qu'au cours des 100 jours ouvrables, le ministère des entreprises publiques a collaboré avec le ministère de l'Investissement et de Laval, chef de BKPM. En outre, avec le groupe de travail national sur la résilience énergétique et l'accélération en aval, nous accélérons l'aval des matières premières stratégiques. Cette étape constitue l'une des mesures stratégiques visant à accélérer la réalisation des idéaux du président Prabowo en termes d'aval et de sécurité énergétique. Ensuite, cette avalisation vise également à accroître la valeur ajoutée au niveau national et à favoriser l'indépendance nationale par l'autosuffisance énergétique. Le président Prabowo Subianto a pour objectif de faire de la capitale nationale indonésienne, IKN, la capitale politique en 2028, c'est ce qu'a déclaré le chef de l'autorité de l'IKN, Basuki Hadimulyono, dans un communiqué de presse après une réunion limitée avec le président Prabowo Subianto au palais d'État de Jakarta mardi. C'est pour cette raison que le président a également demandé à l'autorité IKN de revoir la conception des écosystèmes judiciaires et législatifs. Basuki Hadimulyono a déclaré
sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif. Jadi
nous avons donc pour mission de compléter l'écosystème judiciaire, donc les bureaux et les résidences ainsi que l'écosystème législatif comme les bureaux et les résidences pour le pouvoir judiciaire et législatif. Il y a un projet du ministère PUPR, il a demandé que le projet de base soit à nouveau revu. Ensuite, nous formerons avec le ministère des Travaux publics et l'IKN une équipe de conception qui pourra plus tard être dirigée par le président concernant l'avenir. Le chef de l'autorité de la capitale indonésienne, Basuki Hadimulyono, a expliqué que le chef de l'État avait également approuvé le budget du programme de 2025 à 2029 à partir du budget des recettes et des dépenses de l'État de 48,8 billions de roupies. Selon Basuki Hadimulyono, le budget a été utilisé pour compléter les écosystèmes judiciaires et législatifs et ouvrir l'accès à l'IKN dans la zone de la région de développement 2. Le budget est également alloué à l'entretien et à la gestion des infrastructures et des installations qui ont été achevées lors de la première étape. Le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, Armanata Nasir, a lancé un appel pressant au Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'il prenne immédiatement des mesures concrètes pour mettre fin aux souffrances du peuple palestinien suite à l'accord de cesser le feu entre Israël et le Hamas. Il a fait cette déclaration lors de la session publique du Conseil de sécurité des Nations Unies, CSNU, qui a discuté de la question du Moyen-Orient et de la Palestine lundi, comme indiqué dans un communiqué de presse du ministère indonésien des Affaires étrangères obtenu par Antara mardi 21 janvier. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Armanata Nasir, a souligné que son parti saluait la conclusion d'un cessez-le-feu à Gaza et que cet accord devait être la première étape vers la réalisation de la paix au Moyen-Orient. Il a toutefois regretté que l'accord n'ait été conclu qu'après la perte de dizaines de milliers de vies. Il a ajouté que le Conseil de sécurité de l'ONU doit veiller à ce que chaque phase de cet accord soit pleinement mise en œuvre et mettre fin au cycle de violence continue de se répéter. Le double masculin indonésien Raymond Indra Patra Harapan Rindo Rindo a obtenu un billet pour le tour principal ou les 32 dernières de l'Indonésie Master 2025 après avoir battu le double malaisien Aaron Tai Wei Kin et Kang Kai Ching par un match en double 21-19, 19-21 et 21-19 dans le tour des qualifications à Istora Senayan Jakarta mardi. Le duo classé 78e au monde a admis avoir été initialement pris au dépourvu car les conditions de vent étaient légèrement différentes par rapport à la séance d'essai de lundi 20 janvier. Raymond a déclaré que la clé de la victoire dans ce match de 50 minutes était d'oser presser et de ne pas jouer de balles lobées selon les instructions de l'entraîneur. En 16e de finale, Raymond Patra attendront la paire thaïlandaise Kitty Nupong, Kedre de Chapol, Poivaranukroh. Face à la paire thaïlandaise, Raymond Patra a déclaré qu'ils avaient fait un maximum de préparation et avaient une stratégie. L'ambassadeur de Turquie en Indonésie, le professeur Talib Kuchukchan, a déclaré que les relations historiques et culturelles entre les citoyens turcs et indonésiens ont une longue histoire qui a commencé au 16e siècle. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur Kuchukchan lors de sa rencontre avec le ministre indonésien de la Culture, Fadlizon, à Jakarta. L'ambassadeur Kuchukchan a déclaré dans un communiqué officiel mardi 21 janvier que l'ambassade de Turquie prévoyait d'organiser plusieurs événements promouvant l'histoire, la culture, l'art et la musique turque en 2025, afin de renforcer les relations existantes dans le contexte du 75e anniversaire du début des relations diplomatiques entre les deux pays. L'ambassadeur Kuchukchan a également déclaré que l'ambassade avait l'intention d'organiser des séminaires, des ateliers et des conférences sur la Turquie dans diverses universités et groupes de réflexion, considérant que le musée du textile de Jakarta était autrefois utilisé comme bâtiment du consulat général pendant l'Empire ottoman. L'ambassadeur Kuchukchan a déclaré que son parti était heureux de mener à bien divers événements et projets en collaboration avec le musée du textile de Jakarta. La vice-ministre du commerce de la République d'Indonésie, Diah Roro Esti Widyaputri, a déclaré que le projet de politique d'ajustement des tarifs d'importation du président américain Donald Trump est une opportunité pour l'Indonésie de combler ou de remplacer les marchés des pays touchés par cette politique. C'est ce qu'a déclaré la vice-ministre du Commerce, Diah Roro Esti, après l'inauguration de la direction de l'Association des entrepreneurs fournisseurs du marché moderne indonésien AP3MI à Jakarta mardi. Toutefois, Diah Roro a déclaré que son parti anticiperait également le plan de Trump visant à ajuster les tarifs d'importation en préparant des plans et des stratégies dans le secteur commercial. En outre, la vice-ministre du Commerce, Diah, estime que sous l'administration de Donald Trump, les relations commerciales entre l'Indonésie et les États-Unis continueront de se renforcer, de sorte que la détermination du gouvernement à accroître et à renforcer les exportations puisse se concrétiser.
Oh,
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Évaluation des 100 jours du gouvernement Prabowo-Gibran » avec moi, Audrey. Chers auditeurs, le gouvernement tunisien dirigé par le président Prabowo Subianto et le vice-président Gibran Rakabu Miraka entrera dans ses 100 jours de travail à la fin janvier 2025. L'évaluation des résultats des travaux dans les 3 mois est devenue le centre d'attention de nombreuses parties. Évaluer les performances des 100 premiers jours est devenue une pratique très courante. Plusieurs institutions ont mené des enquêtes pour évaluer la performance du cabinet rouge et blanc. L'enquête de recherche et développement Compass a montré que 80,9% des personnes interrogées se sont déclarées satisfaites de la performance des 100 jours de l'administration du président Prabowo Subianto. Selon Compass.com, plusieurs facteurs ont conduit à la grande appréciation publique de la performance de Prabowo Gibran, notamment le fait que les politiques menées au cours des 100 premiers jours ont été considérées comme assez efficaces pour attirer la sympathie du peuple et des populistes. Dès les premiers jours de son mandat, le 8e président de la République d'Indonésie a immédiatement appuyé sur l'accélérateur au niveau national et international. Au niveau international, en plus de participer à plusieurs forums importants, le président Prabowo a exprimé le désir de l'Indonésie de rejoindre l'organisation intergouvernementale BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. En conséquence, début janvier 2025, l'Indonésie est officiellement devenue membre du groupe qui se compose actuellement du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique du Sud, de l'Iran, de l'Égypte, de l'Éthiopie et des Émirats arabes unis. D'autres programmes prioritaires ont également été immédiatement socialisés et officiellement mis en œuvre dans leur intégralité. Après avoir été testé fin 2024, le programme de repas nutritif gratuit a été mise en œuvre simultanément le 6 janvier 2025, même si tous les enfants indonésiens n'en ont pas bénéficié. À ce propos, le président Prabowo s'est excusé et a promis que, d'ici la fin 2025, tous les enfants indonésiens recevraient une alimentation nutritive. Plusieurs partis ont également exprimé leur appréciation pour les mesures prises par le cabinet rouge et blanc dans la mise en œuvre des programmes en aval et d'industrialisation. Le logement pour le peuple a également fait l'objet d'une attention particulière. 40 000 maisons ont été construites depuis le 20 octobre 2024. L'Indonésie a même collaboré avec le Qatar pour réaliser la construction d'un million de maisons d'une valeur d'investissement de plus de 262 000 milliards de roupies. Des valeurs positives ont également été données par le président de la Chambre des représentants indonésienne, Puan Maharani, qui s'est dit reconnaissant que le gouvernement du président Prabowo Subianto ait reçu l'appréciation du public. Il est trop tôt pour mesurer le succès d'un gouvernement à partir de ses performances au cours des 100 premiers jours. Cependant, cela peut au moins être une première étape pour concrétiser tout ce qui a été ciblé et planifié. Les valeurs positives et l'appréciation de la performance peuvent être une force motrice pour obtenir des résultats encore meilleurs. Bien entendu, cela ne peut pas être réalisé uniquement par le président, le vice-président et le cabinet rouge et blanc. Le soutien réel du gouvernement régional du monde des affaires et du peuple indonésien déterminera en grande partie le succès de la réalisation de l'avenir de l'Indonésie. Espérons qu'à l'avenir, ce gouvernement sera meilleur comme l'a indiqué le président Prabowo Subianto. Le travail acharné du cabinet rouge et blanc a été réalisé pour offrir le meilleur au peuple. Pour changer d'heure, c'est tout. Le commentaire.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 22 janvier 1903, anniversaire du héros national, le professeur Mr. Dr. Supomo. Supomo est connu comme l'architecte de la naissance de la Constitution 1945 avec Muhammad Yamin et Sukarno. Supomo est né à Sukoharjo, Java Central, le 22 janvier 1903. Supomo, qui venait d'une famille noble, a eu l'opportunité de poursuivre ses études à ELS, École primaire européenne, Moulo, enseignement primaire plus complet, et a terminé sa formation professionnelle en droit à l'école de droit de Batavia, à Batavia, en 1923. Lorsque le mouvement d'indépendance a eu lieu, Supomo a pris part à des activités militantes. Supomo est décédé jeune d'une crise cardiaque à Jakarta le 12 septembre 1958 et a été enterré à Solo. Passons maintenant l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 22 janvier 2010. Pour la première fois au monde, l'Indonésie a relâché des tigres de Sumatra. Le 22 janvier 2010, l'Indonésie a libéré des tigres de Sumatra. Ce tigre est relâché dans la zone conservation de la faune sauvage de Tambling, TWNC, une zone considérée comme ayant encore une forêt naturelle d'origine. Cette libération de tigres est un record historique car c'est la première au monde. Le nombre de tigres relâchés était de 4. Ces 4 tigres ont été capturés à Aceh et à Jambi dans des zones de conflit avec les résidents locaux. Dans les dernières données du 23 au 29 juillet 2024, le Centre du Parc National de Kerinci-Seblat, BBTNKS, a déclaré que la population actuelle de tigres de Sumatra est de 130 à 140 tigres. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 22 janvier 2012, debout de la commémoration de la Journée nationale du piéton. La Journée nationale du piéton est commémorée chaque 22 janvier pour commémorer la tragédie mortelle de l'accident survenu à Tugutani, dans le centre de Jakarta, le 22 janvier 2012. La tragédie a fait 9 morts parmi les piétons après avoir été heurtés par une voiture conduite par une personne sous l'influence de l'alcool et de drogue. La proposition de commémorer la Journée nationale du piéton a été initialement soumise par la coalition, des piétons, COPECA, pour exprimer leur inquiétude face à l'incident et pour rappeler aux gens l'importance d'installations adéquates pour les piétons. C'est l'étape, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Sayu kedua mata indahmu, saat bibirku mengecup manis pipi merahmu. Dengan lugunya engkau bertanya, mengapa diriku mencintaimu, ya ku tak tahu. Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau
setiap saat, membuat hari tua yang kuimpikan kini jadi nyata. Jalan yang kini terbentang, membuat kakiku kini tak sabar untuk melangkah denganmu. Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat, membuat hari tua yang kuimpikan kini jadi nyata.
Yeah, I believe in you and me and us and we and love. And trust me, you don't need no other dudes. I'll be all you need, you are all I see. I'm your remedy, you're my energy. And if the world is falling, I'll pick it up for you. I'm nothing without your love, and I'm not gonna let you go, love. And if you're starving, then no, I'ma let you know that you got my shoulder to cry on when you need it. You can tell me all your secrets. I promise I will keep it, and I can't wait for the next time we.
Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat, membuat hari tua yang kuimpikan kini jadi nyata. Membuat hari tua yang kuimpikan kini jadi nyata.
Serge Ritok, c'est la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie. Et pour le titre, soutenant la réunion des entrepreneurs, le ministère indonésien du commerce vise à accroître les exportations indonésiennes vers la Corée du Sud. Le ministère du commerce de la République d'Indonésie soutient les réunions d'entrepreneurs d'Indonésie et de Corée du Sud dans divers forums d'affaires et d'exploration commerciale. Il s'agit d'une forme d'engagement du gouvernement indonésien à augmenter les exportations de produits indonésiens vers la Corée du Sud. C'est ce qu'a déclaré la directrice générale du développement national des exportations du ministère indonésien du commerce, Fajarini Puntodewi, lors de la mission des facilités commerciales et d'investissement ASEAN-Corée-Indonésie à l'hôtel Pullman de Jakarta lundi 20 janvier. Fajarini a déclaré que la réunion des hommes d'affaires au sein du forum et de l'exploration commerciale soutiendra la mise en œuvre des programmes prioritaires du ministère indonésien du commerce, tels que l'expansion du marché d'exportation et l'augmentation des micro, petites et moyennes entreprises qui osent innover et sont prêtes à s'adapter aux exportations. Ou UMKM Bisa Export, en français, les MPMO peuvent explorer. Selon Fajarini, ce forum est également utile pour mettre en œuvre une augmentation des exportations du ministère indonésien du commerce. La mission ASEAN-Corée sur les facilités commerciales et d'investissement en Indonésie a réuni environ 60 acteurs commerciaux indonésiens et 11 acteurs commerciaux sud-coréens, dont le président de l'Association des importateurs coréens, Kim Byung-won, et le chef de l'unité de commerce et d'investissement du Centre ASEAN-Corée, Win Min Fiu. Fajarin a expliqué que la Corée du Sud était l'un des partenaires économiques les plus importants de l'Indonésie en Asie de l'Est. Les relations commerciales et d'investissement de l'Indonésie avec la Corée du Sud se sont développées rapidement au fil des ans. En janvier-novembre 2024, le total des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 18,37 milliards de dollars américains. Concernant la continuité du programme pour 2025, Fajarini vise à ce que la Corée du Sud reste l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Indonésie. Par conséquent, selon elle, les performances des principaux produits d'exportation de l'Indonésie vers la Corée du Sud, tels que le charbon, l'huile de palme, les produits chimiques et les produits du bois, doivent être continuellement encouragés dans le cadre des efforts visant à faire face à la concurrence commerciale non mondiale. À cette occasion, Fajarini a également apprécié les efforts du Centre Asien Corée et de l'Association des importateurs coréens qui ont facilité cette collaboration. Il estime que les résultats de ce forum ouvriront la voie à un partenariat plus étroit, mutuellement bénéfique et durable à l'avenir. Fajarini a ajouté qu'à l'avenir, le gouvernement indonésien souhaite élargir la coopération avec la Corée dans divers secteurs, notamment le développement des infrastructures, le secteur alimentaire, les véhicules électriques, l'agriculture et le développement des capacités des ressources humaines. Selon elle, cela est très important pour soutenir les objectifs de développement et la prospérité partagée des deux pays. Fajarini espère que la mission ASEAN-Corée sur les facilités commerciales et d'investissement en Indonésie constituera un élan important pour renforcer la coopération bilatérale entre l'Indonésie et la Corée. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Apapun yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu. Tumbuh dewasa bersama janji untuk saling setia atas nama cita-cita jarak memisahkan kita. Semua berubah tanpamu, sulit rasanya untukku. Telah ku coba saja, ku masih selalu merindu. Selalu saja kembali.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers auditeurs, le Mont Bromo dans l'est de Java est le seul volcan actif de la région du parc national de Bromo-Tengger-Semeru. La région du Mont Bromo offre des vues et une atmosphère incroyable en raison de la vaste étendue du cratère et de la brume rafraîchissante. La zone touristique s'étend sur 800 km², ce qui rend dommage de simplement prendre des photos. Il y a plusieurs activités que vous devez faire si vous visitez Bromo. La région de Bromo-Tengger-Semeru propose des services de conduite en jeep dans certaines parties de la région telles que Bukit Cinta, Widodaren, Crater de Bromo, Désert, Chuchoté et Savane. En conduisant une jeep capable de parcourir divers chemins escarpés, vous pouvez faire l'expérience de la conduite directement tout en profitant du vaste et étonnant paysage naturel. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas conduire une jeep, car un opérateur sera prêt à conduire et à vous guider sur un itinéraire sûr. La fourchette de prix pour la location d'une jeep commence entre 600 000 rupiah à 1 250 000 rupiah, mais ce prix peut changer à tout moment. L'étendue du vaste désert noir s'étend autour des montagnes. Le bruit du sable qui souffle tout en chuchotant à vos oreilles vous donne l'impression d'être le seul visiteur à Bromo-Tengger-Semeru comme dans le film. C'est pourquoi de nombreuses personnes recherchent des photos anthropogéniques dans cet endroit, même pour les photos avant le mariage. Chers auditeurs, l'un des endroits les plus recherchés lors de la visite de Bromo-Tengger-Semeru est le lever du soleil et se couche le soleil. Il existe plusieurs endroits où vous pouvez assister à ces deux moments, comme la colline Penajakan, la colline Cinta et la colline Perahu. De ces endroits, nous pouvons regarder le soleil se lever et se coucher entre les collines, les montagnes, les vallées, les cratères et les déserts avec des températures froides et fraîches qui rafraîchissent vraiment le corps et l'esprit. Vous n'auriez peut-être pas pensé qu'au milieu du désert, au pied du Mont Bromo, se trouve un temple qui se dresse depuis le début de ce siècle appelé Pura Luhur Poten. Dans ce temple, vous pourrez assister à une cérémonie traditionnelle sacrée exécutée par la tribu Andu Tengger, à savoir Yatnya Kasada. Outre le désert noir et la savane, dans la zone touristique, il y a un lac. Le lac Hanukumbolo au pied du Mont Semeru, appelé le paradis du Mont Semeru par les alpinistes, est un endroit préféré pour passer la nuit en camping et profiter également du lever soleil. L'eau du lac, situé au milieu de la vallée, reflètera la dispersion des étoiles dans le ciel nocturne. C'est Jurita, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien.
Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, La Voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Saya selalu bangun pagi. Saya selalu bangun pagi. Je me lève toujours tôt. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Saya selalu bangun pagi. Saya selalu bangun pagi. Je me lève toujours tôt. Cette conversation se déroule entre Chris, un vlogueur australien, et Naomi, une guide touristique dans un hôtel de Pangkalanbun, dans le centre du Kalimantan. Chris informe Naomi de ses habitudes. Bonne écoute.
Maaf Chris, kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang utan.
Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
Kalau begitu, mari kita berangkat.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui, intitulé Saya selalu bangun pagi. Saya selalu bangun pagi. Je me lève toujours tôt. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Saya selalu bangun pagi. Saya selalu bangun pagi. Je me lève toujours tôt. Saya. Saya, je. Selalu. Selalu, toujours. Bangun. Bangun, se lever. Berangkat. Berangkat, partir. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Tôt. Melihat. Melihat, voir. Orangutan. 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 Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pas de problème. Kalau begitu. Kalau begitu, donc. Mari. Mari. Allons. Chers amis, dans une conversation, vous avez entendu la déclaration Saya selalu bangun pagi. Saya selalu bangun pagi. Je me lève toujours tôt. Dans cet énoncé, il y a l'adverbe selalu. Selalu, toujours. Ce qui signifie qu'il fonctionne pour marquer des activités qui sont devenues une habitude. Dans cette déclaration, l'activité habituelle de Chris est bangun pagi. Bangun pagi. En français, se réveiller tôt. Ou se lever tôt. Chers amis, écoutons un autre exemple d'utilisation de l'adverbe selalu. Selalu, toujours. Pour marquer une activité devenue une habitude. Saya selalu makan pagi sebelum pukul 8. Saya selalu makan pagi sebelum pukul 8. Je prends toujours mon petit déjeuner avant 8 heures. Chris selalu membawa motornya kemanapun. Chris selalu membawa motornya kemanapun. Chris emmène toujours sa moto partout. Chers amis, pour exprimer des informations temporelles, il existe plusieurs expressions couramment utilisées par les Indonésiens. Ces expressions incluent dini hari, dini hari, tôt le matin, pagi pagi, pagi pagi, tôt le matin, siang bolong, midi, et larut malam, tard dans la nuit. L'expression de la description de l'époque a des nuances de sang, sangat, sangat, en français très ou trop. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Maaf, Chris. Kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang utan.
Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
Kalau begitu, mari kita berangkat.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Jalani setiap hari bersama. Oh, lalu ku jadi suka. Awalnya biasa, tapi lama-lama cuma ada biasa, tapi lama-lama ku selalu menunggu pesan dari kamu. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama. Oh, lalu ku jatuh cinta.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de magazine musical avec Maudrey. Et cette fois, je vais vous présenter une chanson de Papouasie intitulée Tatinggal di Papua. Sejauh itu, la chanson Tatinggal di Papua a été composée par Stephen Wally. Cette chanson en langue papou raconte l'histoire de quelqu'un qui manque sa ville natale en Papouasie. Chers amis, les paroles de la chanson Tatinggal di Papua mentionnent également les richesses naturelles de la Papouasie telles que les montagnes, les vallées, les plages et les oiseaux de paradis. C'est comme si le cœur avait été laissé derrière lui parmi toutes les richesses naturelles de la Papouasie. Bonjour, je t'arrive. Voici la chanson de la Papouasie intitulée Tatinggal di Papua.
Aduh, mama lihat sapu hati suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah, di Papua. Cerita dia busu sungai yang deras.
rasa surindu, rindu mati ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke Papua.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.